Salut à tous, vous êtes dans le Labomatique, l'émission de Radio Campus Rennes dédiée à l'actualité de la recherche scientifique. Nous voici partis pour une demi-heure d'interview avec Céline Rothet à propos de sa thèse de doctorat en sciences politiques sur les jeunes en errance. Céline Rothet est chercheure sociologue et politiste au Centre de recherche sur l'action politique en Europe à l'École des hautes études en santé publique de Rennes. Elle est par ailleurs ingénieure de recherche à la chaire Social Care, Lien social et santé de l'EHESP. Nous avons pensé à elle pour cette deuxième émission dédiée aux expériences de la jeunesse vues par les sciences sociales. Sa thèse a porté sur les jeunes en errance, ceux que nous appelons le plus souvent les punks à chiens, et visait à répondre à trois types d'interrogations. Un premier niveau correspondait à la construction de la catégorie d'action publique des jeunes en errance, dans un contexte où l'action politique en direction des jeunes vulnérables est largement marquée par la norme d'insertion. Un second niveau visait à s'intéresser aux pratiques des professionnels des dispositifs de l'urgence sociale. Enfin, elle a cherché à comprendre le sens que donnaient ces jeunes à l'usage de ces dispositifs d'aide dans la construction de leur identité marginale. Pendant 7 ans, Céline Rothet a mené un travail de terrain approfondi pour comprendre ce qui se jouait dans les relations de face à face entre ces jeunes et les professionnels de l'urgence sociale. Nous l'avons accueillie dans les studios de Radio Campus Rennes afin d'échanger sur les résultats de sa thèse de doctorat.
Le Labomatique,
l'émission scientifique de Radio Campus Rennes.
Alors Céline Rothet, bonjour, on vous accueille donc dans les studios de Radio Campus Rennes aujourd'hui. Vous mêlez un peu plusieurs types de sociologie, donc une sociologie des problèmes publics, des fois on l'appelle un peu comme ça, donc comment se construit un problème public, comment il acquiert une visibilité dans l'espace social, mais aussi une dimension ethnographique, et on sait notamment que sur par exemple la question des SDF ou des gens qui vivent à la rue, il existe un nombre assez considérable de travaux. Est-ce qu'il y a des travaux en particulier desquels vous vous êtes senti proche pour mener votre enquête?
Peut-être pour répondre sur la sociologie des problèmes publics, dans un premier temps, ça peut paraître assez bizarre de combiner dans un même travail de recherche, même si c'est tout à fait pertinent au regard de la question, mais ça peut paraître être deux approches différentes. On dit souvent, quand on aborde un objet de recherche, on choisit un petit peu une approche aussi conceptuelle. Et de fait, comme je le disais, la jeune en errance, c'est une notion qui m'a beaucoup interpellée au départ. Et du coup, j'ai mené tout ce travail autour de la sociologie des problèmes publics parce que je me suis dit, c'est en fait une nouvelle population problématique pour l'action publique. Et il a fallu que je déconstruise la façon dont cette catégorie avait émergé sur la scène du travail social, sur la scène médiatique et pour les pouvoirs publics, en fait. Voilà pour la sociologie des problèmes publics. Il me semblait que c'était le plus approprié. L'approche ethnographique, effectivement, il y a pas mal de travaux et même des anciens travaux. Je pense au Bobo de Anderson.
Ah oui, les années 30,
il me semble. Voilà, qui ont effectivement visé à comprendre la façon dont vivaient ces personnes-là, qui étaient dites en situation marginale, qui étaient étiquetées comme déviantes, etc. Je dirais pas que je me suis particulièrement sentie proche de certains travaux sur les SDF ou sur les publics en errance, mais plutôt d'une façon d'envisager le travail ethnographique. D'accord. Donc effectivement, les théories de l'interactionnisme, les relations de face à face, énormément, alors des travaux très classiques, mais qui sont toujours des travaux très très utiles et très riches, les travaux Goffman, Baker sur les carrières déviantes, le stigmate, voilà, et comment les acteurs aussi réagissent, acquièrent une marge de manœuvre dans les relations de face à face. Peut-être pour citer quand même des travaux sur les populations à la rue, je citerai Michel Parazelli, qui est quelqu'un qui travaille... qui est professeur en travail social au Québec, qui a travaillé sur les itinérants, comme on les appelle là-bas, sur l'itinérance, et sur les jeunes qui vivent dans la rue à Montréal, avec une approche vraiment en termes de parcours de vie, puisqu'il met en relation en fait, les relations familiales durant l'enfance des jeunes, avec la façon dont ils utilisent l'espace de la rue, en fait. C'est une perspective de plus de géographie sociale, je dirais. C'est des travaux qui m'ont beaucoup inspirée, parce que lui, il parle de socialisation marginalisée. C'est des travaux qui sont intéressants parce que ça permet de resituer la marginalité dans un processus de socialisation, un peu, de le penser un peu différemment de ce qu'on connaît de la socialisation primaire, secondaire, classique, et de décentrer un peu le regard sur ces jeunes qui ont des parcours de vie atypiques et qui, de fait, ont des réponses atypiques par rapport aux injonctions à l'insertion. Moi, j'ai pas choisi d'aller vivre avec ces jeunes-là. J'ai pas choisi de passer du temps dans les squats, ce que j'aurais pu, ce qui aurait pu être un dispositif méthodologique envisagé. Il y a des gens qui l'ont fait. Il y a Tristan Apimore qui a fait une thèse en fait sur la question des zonards et qui a choisi ce dispositif-là. Il a passé du temps avec avec les jeunes dans la rue. Moi, vu mon angle, j'ai plutôt choisi de passer du temps dans les structures d'accueil d'urgence, en fait.
Étudier la relation d'aide, en fait.
Voilà, étudier la relation d'aide et dans un premier temps, me familiariser aussi avec cette population que je connaissais pas, avec ce type d'aide que je connaissais peu, parce que une grosse partie du travail qui apparaît pas forcément dans l'écrit, mais ça a été quand même de défricher et où étaient pris en charge ces jeunes-là, en fait. Où est-ce qu'on les trouve,
voilà,
concrètement. Et effectivement, c'est des dispositifs qui sont vraiment destinés à une population en très, très grande difficulté, qui reçoit des populations qui sont très changeantes aussi au fil des années. Il y a eu, dans les années, je dirais, 95-2000, peut-être beaucoup plus de jeunes en errance, comme on les appelait à l'époque, qu'aujourd'hui, où il y a une population, notamment migrante, qui est beaucoup, beaucoup plus forte aussi à d'autres raisons, mais et aussi les jeunes, quand on décide de travailler sur des jeunes en grande difficulté d'insertion sociale et professionnelle, comme sont ces jeunes que j'ai enquêtés, moi au départ je me suis dit bon, je vais aller dans les missions locales, je vais aller dans tous les endroits dédiés à l'insertion des jeunes qui sont sortis du système scolaire, qui sont pas dans des parcours très conventionnels, on va dire. Et de fait, je me suis rendu compte que les jeunes que je souhaitais étudier se retrouvaient principalement dans les lieux d'urgence sociale, qui sont pas des lieux d'accueil pour les jeunes spécifiquement, mais qui peuvent avoir enfin, en tout cas à l'époque de mon enquête au départ, qui avait une population relativement jeune de fait.
On va peut-être repréciser quelques notions du point de vue sociologique, parce que la particularité du vocabulaire sociologique, c'est qu'il circule quand même beaucoup dans l'espace social et notamment l'espace médiatique. Mmh. Alors, on a, selon les époques, jusqu'à encore récemment, on parlait souvent de jeunes en précarité, ou en difficulté, ou en situation de quelque chose. Mmh. Aujourd'hui, on entend de plus en plus parler de jeunes en situation de vulnérabilité sociale. Est-ce que vous pourriez peut-être nous aider un peu à comprendre comment cette notion se situe entre la précarité, l'insertion, l'intégration, etc. C'est des notions, finalement, on ne sait plus vraiment à quoi elles correspondent.
Alors oui, comme vous dites, c'est vrai que le vocabulaire sociologique est souvent très près du vocabulaire ordinaire, ce qui introduit parfois des confusions et ce qui demande effectivement des définitions un peu précises. Pour revenir sur la façon dont on appelle les jeunes, il y a toujours eu des jeunes qui posaient problème, on les a toujours appelés par des noms, on parlait de punk à chien, jeunes en errance, on peut aussi parler des apaches, des blousons noirs,
voilà.
Tous ces jeunes qui ont créé un petit peu des paniques morales, à des moments donnés qui ont été très médiatisés, etc. Et puis, il y a un peu toute la masse un peu diffuse des jeunes, voilà, en situation de vulnérabilité sociale, de précarité, d'instabilité. Alors, sociologiquement, la notion de vulnérabilité, vulnérabilité sociale plus précisément, c'est une notion qui a été développée progressivement, mais depuis assez longtemps finalement dans les théories sociologiques. C'est notamment Robert Castel qui l'a vraiment, vraiment développé et poussé, et qui parle de plus de vulnérabilité sociale. C'est les sphères d'intégration dans la société, en fait. Quand il explique un petit peu les supports dont bénéficient les individus dans la société salariale, le développement de la société salariale, il explique aussi comment les individus sont protégés, ou sont moins protégés, ou ne sont plus protégés. Et lui, il s'appuie notamment sur les deux principales sphères d'intégration que sont le travail et la famille. Voilà, les individus circulent. Ce qui est très intéressant dans cette approche-là, moi je m'en sers beaucoup, c'est pour ça que j'en parle, c'est que c'est une approche qui est processuelle, qui n'est pas,
pas figée.
Ce qu'il faut faire vraiment attention, c'est quand on utilise des termes, il faut toujours penser qu'en sociologie, on est toujours dans une approche processuelle et pas figée. On n'est pas en état de vulnérabilité sociale. Mmh. C'est vrai que les mots sont toujours difficiles. Je ne sais même pas si on est en situation de vulnérabilité sociale. En fait, c'est plus un processus que les individus vont suivre, qui va se répéter, qui va peut-être s'interrompre. Il y a aussi toute une sociologie des bifurcations qui montre comment les individus peuvent être dans un processus, disons par exemple, de vulnérabilité, vulnérabilisation, je ne sais pas comment dire, et du jour au lendemain vont renverser
sortir
leur trajectoire, ou voir leur trajectoire se renverser, ou à l'inverse.
D'accord.
Donc il faut voir qu'il y a quand même on parle de réversibilité biographique, des notions qui sont quand même importantes en sociologie. Et pour revenir à la jeunesse, par exemple, et à l'analyse un peu de Castel, lui, il envisage aussi beaucoup la notion de risque, de ne plus être protégé. En fait. Dans les sphères, la sphère de vulnérabilité qu'il définit comme un petit peu une sphère qui est entre ces deux sphères d'intégration que sont la famille, ces deux sphères de protection et d'intégration, la famille et le travail, une sphère de vulnérabilité, une sphère de désaffiliation totale. Où les individus,
c'était son concept majeur.
Voilà. Mais il y a d'autres sphères, il y a une sphère d'affiliation, il y a des sphères transitoires. Pour les jeunes, il y a toute une réflexion à avoir aussi à quel statut a la jeunesse, même celle qui va bien, puisque je pense que vous avez dû parler des travaux de Cécile Mandevelle peut-être dans les précédentes émissions, ou peut-être qu'on va en parler.
C'est avec vous que je compte en parler.
Voilà. De fait, elle a écrit effectivement un livre qui fait date, hein, qui s'appelle « Devenir adulte » ouais. en Europe. Hein, donc elle a un peu comparé les différentes trajectoires du devenir adulte en Europe. Et en France, il y a une injonction à se placer qui est très forte, une injonction aux trajectoires linéaires qui est très forte, et en même temps, une solidarité publique qui renvoie énormément les jeunes à leur famille. Dans une période assez longue, finalement. Si on considère la fin de la scolarité obligatoire, on va dire 16 ans, et l'accès au revenu minimum, au RSA, 25 ans, même si je sais qu'il y a plein de petites choses qui peuvent faire qu'on peut y accéder avant, c'est très marginal, ça fait une période de presque 10 ans où il faut se placer, donc moi j'aurais tendance à dire faire ses preuves, et où les jeunes sont largement renvoyés à leur famille. Il y a eu beaucoup de travaux aussi qui montrent comment les familles aident leurs jeunes de soutien plus matériel, en nature on va dire. En tout cas les familles aident leurs jeunes, et l'État aide les familles à aider les jeunes. Donc ceci dit, comment on fait pour analyser les trajectoires des jeunes qui n'ont pas de famille ? Ou qui n'ont pas de famille sur qui compter, pour être plus précise.
Voilà,
ou sur qui s'appuyer, qui n'ont pas ces supports-là, en fait. Là, on revient un petit peu à, justement, cette sphère d'intégration par la famille, qui est d'autant plus forte en France, qu'il y a cette familialisation des aides pour les jeunes. Du coup, on peut dire qu'ils sont peut-être un peu d'emblée dans une sphère de vulnérabilité, ce qui ne veut pas dire qu'ils vont aller vers des trajectoires de désaffiliation, pas du tout. Mais en tout cas, ils sont dans ces jeunes qui ne peuvent pas bénéficier du soutien familial sont dans une sphère un peu fragile, effectivement, qui peut les amener vers une forme de vulnérabilité sociale. Mais il y a aussi beaucoup de sociologues qui se posent ces questions-là. Est-ce que la jeunesse, même celle qui a un soutien familial, n'est pas aussi dans une période de vulnérabilité, sans que ce soit forcément péjoratif, puisque faire ses preuves, c'est aussi être dans une situation d'instabilité, de précarité. Est-ce que l'âge de jeunesse, tous les guillemets aussi qu'on peut mettre à ce terme, n'est pas un âge de la vulnérabilité. Léa Lima, elle parle, il me semble-t-il, de risque d'insertion aussi, donc c'est-à-dire le risque qu'ont les jeunes de ne pas réussir à s'insérer comme les trajectoires conventionnelles de l'insertion l'entendent, c'est-à-dire suffisamment vite pour pouvoir être autonome financièrement, mais pas que.
Alors, Céline Rothet, dans le cadre d'une enquête que vous aviez réalisée avec Virginie Muniglia, vous aviez pu montrer que la vulnérabilité sociale était finalement une expérience qui était plurielle et qu'on pouvait distinguer différents types de profils, notamment dans les usages qu'ont les jeunes des dispositifs d'aide publique, donc d'insertion sociale et professionnelle notamment. Donc les profils que vous aviez distingués dans votre typologie étaient les conventionnels, les renversés et les marginaux. On ne va pas pouvoir rentrer dans le détail des deux premières catégories, mais vous allez peut-être pouvoir nous expliquer comment vous aviez dessiné les contours de la catégorie des marginaux qui correspond finalement à celle des jeunes en errance.
Donc les marginaux, c'était effectivement largement en écho à la typologie de Serge Pogam, qui parle de marginaux aussi. C'est effectivement beaucoup plus le profil des jeunes que moi j'ai étudié dans mon travail de thèse. Ce sont des jeunes qui en fait vont avoir vécu un processus de rupture cumulative, pour toujours emprunter à la sociologie de Serge Pogam, rupture cumulative depuis l'enfance. Donc c'est des jeunes qui font l'expérience en fait de la rupture chronique depuis l'enfance, et qui ont des ruptures cumulatives avec la famille, mais pas seulement, du coup avec les institutions aussi, protection de l'enfance, hôpital psychiatrique, prison, école, formation. En tout cas, qui sont vraiment dans cette dimension processuelle de rupture permanente. Mais, et c'est aussi une partie de mon travail, c'était de mettre en évidence que c'est aussi des jeunes qui vivent leur expérience sur le mode de la marginalité. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas du tout se projeter dans une perspective d'insertion conventionnelle. De fait, ils utilisent les circuits et les aides de l'urgence sociale. Ils circulent dans le dispositif de l'urgence sociale en faisant quelque part, en la présentant comme une aide ordinaire. C'est-à-dire une aide qui sera toujours là pour eux et pas une aide d'urgence, puisqu'une aide d'urgence est censée être une aide ponctuelle pour, à un moment donné, redresser une situation qui est devenue extrêmement problématique. Après, on peut débattre sur la place de l'urgence sociale aujourd'hui. Mais... et de fait, ces jeunes-là, effectivement, sont plus dans une perspective de vivre leur insertion, je dirais, parce que c'est leur manière de définir leur insertion sociale, mais sur le mode de la marginalité. Et ils vont continuer à fréquenter ces lieux-là parce qu'ils en font des lieux de marginalité, des lieux qui valorisent leur identité marginale aussi, et des supports de valorisation de leur trajectoire de vie, qui n'a pas été la même que les autres, comme ils disent. Ils n'ont pas eu les mêmes chances que les autres, et de fait, ils ont fait des choix, certes contraints, mais en tout cas... L'usage de ces aides-là, ces aides d'urgence, fait partie des choix qu'ils ont faits suite à leur trajectoire de vie.
Est-ce qu'on pourrait revenir et retracer peut-être une histoire de la catégorie de jeunes en errance ? Comment ça se construit ? Et surtout, comment elle se distingue du reste des politiques publiques en direction de la jeunesse ? On parlait tout à l'heure de normes d'insertion. Et on pourra revenir après sur la contradiction qui est au cœur de votre thèse entre la façon dont les jeunes se servent de ces dispositifs et la façon dont ils étaient pensés au niveau politique.
De fait, pour revenir d'abord sur la construction de la catégorie, parce que c'est important pour comprendre un petit peu le décalage effectivement entre l'offre d'insertion et la façon dont les jeunes s'en saisissent, on va dire. La catégorie de jeunes en errance, en fait, c'est des jeunes qui ont été repérés par les travailleurs sociaux et par les missions locales, beaucoup, déjà dès les années 80 en fait. Sans qu'ils soient nommés jeunes en errance. En fait, les professionnels de l'insertion des jeunes disaient, voilà, on voit dans les rapports, un rapport du Conseil national des missions locales, des rapports de la prévention spécialisée aussi, des écrits qui disent, voilà, il y a des jeunes qu'on n'arrive pas à accrocher, qui ont des profils qu'on ne connaissait pas, on les voit arriver, on ne sait pas si c'est des profils nouveaux ou s'ils nous arrivent nouvellement.
D'accord.
Mais en tout cas, on est très en difficulté par rapport à ces jeunes. Et puis, au début des années 90, il y a eu un phénomène plus visible, plus massif aussi, mais qui découle en fait de ces observations-là, de ce phénomène des années 80. C'est des jeunes qui se rassemblaient massivement aux abords des grands festivals, en fait. On a tous en tête ces images-là d'attroupements... aux abords des festivals, de jeunes qui descendaient, qui parcourent la France, l'ouest de la France, le sud de la France en camion,
ouais.
Plein de chiens, et qui se regroupent aux abords des festivals, mais sans assister vraiment au concert. Et grande préoccupation aussi des professionnels de l'intervention sociale par rapport à ces jeunes, qui ont des conduites sanitaires qui inquiètent, prise de toxiques, etc., qui ont visiblement des situations de vie aussi qui sont préoccupantes, du point de vue des travailleurs sociaux. Et donc, le réseau notamment des CMEA, qui met en place le réseau Jeunes en errance dans les années 90-91. Donc on voit qu'il y a le terme commence à apparaître, il y a une préoccupation autour de ces jeunes-là. Et là, c'est plus l'errance festivalière, comme on l'appelait à l'époque, qui est visée. Ce qui a diffusé beaucoup plus largement la catégorie, en fait, c'est il y a eu un certain nombre d'arrêts anti-mendicité qui ont été pris par des villes touristiques, des villes qui accueillaient des festivals aussi du Sud. Et dès, je crois, 1993, mais beaucoup en 95, 96. Et surtout, il y a eu un relais médiatique assez fort à ce moment-là. Sûrement parce que c'était aussi 95, c'est la campagne présidentielle autour du thème de la fracture sociale, c'est le projet de loi de cohésion sociale. Et ces arrêts anti-mendicité, en gros, effectivement, interdisaient aux gens de mendier dans les centres-villes. Mais qui mendiait dans les centres-villes en plein été ? C'était des jeunes avec des chiens. Et ces jeunes-là, justement, ces errants festivaliers un petit peu. Donc il y a eu, ça a suscité des émois parce que c'était d'une part retour un petit peu à on repousse les mendiants aux portes des villes. Et d'autre part, ça visait une population jeune, etc. Donc il y a eu une vive polémique autour de ça. Mais suite à cette émulation-là, un petit peu, il y a eu toute une démarche de diagnostic partagé qui a été menée dans toutes les DAS de... Enfin non, d'abord une expérimentation dans... plus d'une trentaine, 37 si mes souvenirs sont exacts, mais je ne suis pas sûre, d'AS de France pour essayer de comprendre comment étaient perçus ces jeunes en errance, comment les professionnels faisaient. C'était vraiment une démarche de diagnostic partagée, donc c'est-à-dire mettre en relation, en confrontation des pratiques sur différents territoires pour voir comment était appréhendée en fait cette marginalité des jeunes et cette errance des jeunes. Et ça a donné lieu, ce travail-là, à un guide méthodologique sur l'errance et la grande marginalité des jeunes.
D'accord.
Je crois que c'est ce titre-là à peu près. Donc on voit, en tout cas, dans le titre du guide, il y a errance et grande marginalité des jeunes. Et dans le guide, il y a un petit travail d'un sociologue qui s'appelle... Vidal-Naquet qui travaille un petit peu sur qui sont ces jeunes, etc. Puis il y a surtout une définition plus de l'intervention sociale, du profil des jeunes et de comment on fait par rapport à ces jeunes. Alors c'est pas une injonction à faire comme ci, comme ça, c'est plus effectivement pour présenter différentes manières de faire pour que les professionnels puissent mieux se situer.
Et alors, moi ce qui m'a particulièrement intéressé dans votre travail, c'était donc cette analyse qu'on pourrait qualifier de multiscalaire, c'est-à-dire que vous déconstruisez un peu la catégorie politique, puis ensuite vous nous faites accéder au terrain. Donc on arrive au terrain et donc on rencontre des jeunes, mais aussi des professionnels. Et est-ce qu'il existe des référentiels bien formalisés pour ces professionnels ? Quelles sont leurs missions finalement à ces professionnels ?
Alors, peut-être pour préciser, parce que j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais quels sont les professionnels finalement auxquels je me suis intéressée ?
Oui,
mais
déjà,
je me suis dit, qui rencontre ces jeunes-là ?
Voilà, ouais.
Ces jeunes en rupture chronique depuis l'enfance, qui rencontre ces jeunes-là ? Ces jeunes qui vivent à la rue ? Eh bien, c'est les professionnels de l'urgence sociale principalement. du social et du médico-social, mais en tout cas tous ces professionnels qui travaillent dans les structures à bas seuil d'exigence, comme on les appelle, en tout cas dont le travail et l'accueil, inconditionnalité, etc. D'accord. Toujours avec pour objectif d'amener vers le droit commun à terme, mais en tout cas voilà, sans demander énormément d'emblée. Retour, ouais. Donc de fait, ces professionnels ne sont a priori pas formés spécifiquement pour accueillir des jeunes. Même si, étant donné que ce public-là est quand même, a été un public très important, il est toujours, même s'il a tendance maintenant à peut-être s'éloigner un petit peu de ces structures-là, ça c'est un débat aussi aujourd'hui chez les professionnels, comme il a été très présent, les professionnels se sont, ont forgé leur pratique en fonction, ont même parfois créé des dispositifs spécifiques pour les jeunes, dans les lieux d'accueil de jour ou dans les lieux de l'urgence sociale. Il y a des postes parfois d'accompagnateurs spécifiques pour les jeunes. Après, ça, c'est des montages hein, qui sont souvent du coup territoriaux, hein, qu'on ne va pas retrouver de la même façon dans tous les territoires. En tout cas, forcément, les professionnels adaptent leurs pratiques en fonction de la jeunesse des publics. Et de fait, ils vont avoir une attention particulière, on va dire, à l'égard des jeunes, qui va différer de celle qu'ils ont à l'égard des publics plus âgés, toujours parce que, ben, bien évidemment, la jeunesse du public induit forcément une volonté d'insérer, même si ce n'est pas forcément d'insérer conventionnellement, etc., mais de ne pas laisser la situation de ces jeunes-là se déliter outre mesure, en fait.
Est-ce que dans votre travail, vous parlez aussi d'une certaine éthique de l'intervention sociale ?
Oui.
Et moi, ça m'intéresse, puisque ça rejoint des débats aussi qui sont abordés peut-être par des sociologues qu'on qualifie un peu de pragmatistes, ou Cantelli, Génard, c'est ce type de sociologue-là. Qu'est-ce que vous entendez par une éthique de l'intervention sociale qui est particulière ? Ça veut dire quoi ? C'est plus soucieuse de la prise en compte de la subjectivité des jeunes ?
Alors, cette dimension-là, elle a émergé en fait de l'observation. Pareil, hein, les mécanismes sont complexes, mais du fait que ces professionnels se situent dans un contexte d'action publique, celui qu'on a dressé un petit peu, c'est-à-dire dans un contexte où, qu'ils connaissent bien d'ailleurs, hein, ils savent que ces jeunes-là basculent dans l'urgence sociale. C'est un peu l'idée de la bascule, hein, parce qu'il n'y a pas de dispositif d'accompagnement adapté pour eux par ailleurs. Parce qu'ils ne peuvent pas effectivement formuler de projet d'insertion, enfin répondre aux attentes un peu conventionnelles. Donc voilà, première chose, ils sont conscients de ça. Mmh. Ils sont conscients du coup qu'ils ont un rôle de tampon, de relais, je ne sais pas comment on peut le dire, en tout cas d'amortisseur pour ces jeunes-là, avant qu'ils basculent dans une désaffiliation trop importante, une marginalisation trop importante, de leur point de vue. L'éthique de l'intervention, elle se fonde notamment par rapport à ça, c'est-à-dire qu'ils, quand ils décrivent leur mission, ils disent qu'ils sont aussi là pour accompagner les jeunes, même si, comme je disais, hein, l'urgence sociale est l'urgence sociale. L'idée, ce n'est pas d'accompagner les personnes sur le long terme.
Oui.
Mais de fait, ils se mettent dans une posture où ils vont se donner les moyens d'accompagner les jeunes sur le long terme. Et sur quoi va reposer cet accompagnement ? C'est sur la maintenance sociale, sur la création d'un lien social minimal qui va leur permettre de fidéliser le public, comme ils disent, même si ce n'est pas très joli.
Ouais.
Mais de fait, l'idée, c'est de créer une confiance qui va permettre aux personnes, jeunes et moins jeunes, hein, mais c'est très vrai pour les jeunes, de revenir. Après, ça passe par plein de petites techniques, de pratiques bricolées sur le terrain,
Je comptais vous faire rebondir là-dessus, justement, le côté bricolé des pratiques, parce que vous employez très clairement ce terme, ne serait-ce que dans le résumé de votre thèse.
Oui,
vous parlez de pratiques professionnelles bricolées. Et peut-être, avant de revenir là-dessus, c'est... Alors, il y avait un auteur suisse, me semble-t-il, Jean-Marc Soulet, qui parle de travail social palliatif. Enfin, les contours qu'il réussit à définir de ce travail social, du maintien, plutôt que de la quelque chose de génératif.
Oui, c'est Marc-Henri Soulet, travail social palliatif. Oui, quelque part, le terme palliatif est dur, mais c'est vraiment, quand je parle de réaction aussi à l'offre du système d'aide et de tampons, de passerelle, on est aussi dans cette dimension palliative, c'est-à-dire que c'est pallié au creux. Moi, souvent, j'emploie la métaphore, voilà, c'est, je parlais de rupture institutionnelle aussi qu'ont vécu ces jeunes, c'est-à-dire des jeunes qui sont pris en charge par la protection de l'enfance, et voilà, ils ont 18 ans, voire 21 ans, et du jour au lendemain, ils n'ont plus cet accompagnement-là. Voilà, il y a beaucoup de sorties qui sont problématiques, de sorties de prise en charge institutionnelle, prison, hôpital psychiatrique pour eux ou pour leur entourage. Ceci ajouté à un système de protection sociale qui va être résiduel ou des aides qui vont être ponctuelles pour les jeunes. Qui dit ponctuel dit à un moment aide, à un moment plus rien. En fait, on renvoie a priori les jeunes vers leur famille ou vers ce qu'ils ont pu construire grâce à leur projet. Ces jeunes-là, ils n'ont pas de support derrière pour être aidés, de support familial en tout cas. Et du coup, ils sont sans cesse dans... s'ils accèdent à une aide, ça va être... ils sont aidés, puis plus rien. Ils sont aidés, puis plus rien. Donc, ils vont tomber dans les creux de la prise en charge, en fait. Les professionnels ont vraiment conscience de ça, qui vont effectivement pallier à ces creux, en accompagnant, en étant là, en fait. La posture, l'idée de mettre en place une confiance, c'est aussi parce que leur idée, c'est d'être là si les jeunes ont envie de réengager quelque chose, travail à nouveau avec eux. Donc la dimension palliative, elle est de fait.
C'est dur quand même là. Comme terme.
C'est dur comme terme, mais voilà, moi c'est vrai que j'utilisais plus combler les creux de la prise en charge, mais de fait, Marc-Henri Soulet a beaucoup écrit sur le travail social depuis longtemps.
Enfin, le caractère bricolé aussi intervient dans l'interaction aussi avec, avec les jeunes précisément, c'est-à-dire qu'on peut avoir plein de tactiques professionnelles, etc. Quels usages les jeunes vont faire de ce type de dispositif-là? Est-ce qu'ils vont peut-être développer des stratégies, finalement, dans la façon dont ils se servent de ces dispositifs?
Alors, c'est vrai que là, je parlais tout à l'heure du fait que les jeunes, qu'on a pu appeler les marginaux, ou les jeunes en rupture chronique, ou les jeunes désaffiliés, font de ces lieux des lieux de marginalité. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, du coup, effectivement, ils mettent en place un certain nombre de micro-stratégies, de tactiques, pour parler un peu comme Michel de Certeau, pour faire référence à ces travaux-là. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des choses qui vont être extrêmement conscientisées, mais ils vont mettre en place un certain nombre de stratégies pour finalement retourner le stigmate, pour parler un peu comme Goffman, parce que voilà, je me suis beaucoup appuyée là-dessus pour analyser les récits que font les jeunes de leur usage des aides sociales. Alors, pour expliquer un peu plus précisément, c'est très en relation avec les deux précédentes parties qu'on a abordées, c'est-à-dire à la fois ce système des aides publiques qui finalement laisse tomber ces jeunes dans les mailles du filet, en fait, les fait basculer directement vers ces dispositifs de l'urgence sociale. C'est aussi en relation avec le bricolage des pratiques professionnelles et la posture qui est adoptée par les professionnels, qui fait finalement de ces lieux d'accueil de jour, ou de ces lieux de l'urgence sociale tout simplement, des lieux ad hoc, très adaptés finalement, mais encore une fois sans jugement derrière, mais très adapté aux attentes des jeunes. Alors, les attentes des jeunes, moi, je ne peux pas les définir très précisément comme ça, mais en tout cas, en termes d'identité, de valorisation de soi, c'est des lieux qui vont, parce qu'il y a une posture empathique qui fait de la place à la subjectivité, justement, qui vont valoriser leur histoire de vie, parce que les professionnels qui essayent de construire du lien sont forcément dans le dialogue, dans la subjectivité, dans le fait d'écouter les histoires telles qu'elles sont racontées aussi, dans cette posture qui fait place à la subjectivité, qui entend les discours critiques par rapport à l'insertion aussi des jeunes, mais en même temps à conditionnalité de l'accueil, donc qui laisse la place aussi au fait aux jeunes de se retirer comme ils veulent, de ne pas s'engager. Et c'est vrai que les jeunes sont souvent en train de dire « Oui, moi j'en ai marre de raconter ma vie pour avoir un quignon de pain, etc. » Donc il y a aussi ce refus de toujours devoir se raconter, et souvent depuis très longtemps, puisque c'est souvent des jeunes aussi qui ont connu forcément les aides sociales, la protection de l'enfance éventuellement, depuis qu'ils sont
très racontés jeunes aux institutions toute leur vie, finalement.
Voilà. Ouais. Donc ils ont une expertise de ça aussi, mais ils sont aussi très critiques par rapport à ça, et ça fait partie des raisons pour lesquelles ils ne veulent pas s'engager dans un projet d'insertion, ils veulent aussi qu'on les laisse tranquilles vis-à-vis de ça. Ces lieux-là, qui sont des lieux d'accueil inconditionnel, sont aussi des lieux de sociabilité forts pour les personnes, c'est des lieux de mise à l'abri. Moi je dis que c'est un peu, pour certains lieux que j'ai pu observer, des lieux d'asile, mais au sens positif, c'est-à-dire de retrait, où ils peuvent aller. Alors ils peuvent aller parce qu'ils cherchent quelqu'un, ils veulent voir quelqu'un, ils peuvent y aller parce qu'ils veulent se poser, ils peuvent y aller parce qu'ils ont juste besoin d'un service, ils ne vont y pas. Ils peuvent y aller parce qu'ils ont envie de discuter, ils peuvent y aller pour plein de raisons. En tout cas, c'est des lieux qui sont assez protecteurs, le lien avec les professionnels est assez protecteur, donc les jeunes vont valoriser ces lieux. Donc de fait, ils vont s'y rendre très régulièrement, et c'est là aussi intervient la dimension de la carrière, Goffman et Becker l'ont déroulé, mais c'est pour la reprendre un petit peu à la Becker, c'est comment finalement ces jeunes vont endosser une carrière de jeunes en errance. C'est parce qu'ils vont finalement devenir ces jeunes qu'on a désignés au préalable, c'est-à-dire ces jeunes qui ne fréquentent plus que les circuits d'urgence sociale, qui adoptent des comportements bien particuliers et qui retournent le stigmate de manière à faire de leur identité une identité valorisée. Et une des façons de retourner le stigmate, c'est dans la mise en récit et dans les stratégies d'usage des aides. Alors, comme ils le racontent, moi je me base sur les récits qu'ils font et la façon dont ils vont présenter leur usage des aides. Je me demande pas si c'est vrai ou pas ce qu'ils disent, si c'est réellement leur besoin ou pas, peu importe, c'est la mise en récit qui compte. Et donc, quand ils expliquent comment ils recourent aux aides, on voit qu'il y a deux types d'usages qui sont mis un petit peu en avant. Le premier, c'est de dire, ce que j'ai appelé un peu un recours partiel aux aides, c'est-à-dire, nous, on utilise, c'est le discours des jeunes qui valorise la débrouille, on utilise quand on en a besoin, mais on ne veut pas s'insérer, avec tout un discours très critique autour de l'insertion, qui est parfois effectivement très élaboré et très construit et très entendable, hein, avec des jeunes qui racontent ce qu'ils ont vu de leurs parents, l'état de la société salariale, du marché de l'emploi, en disant nous, on ne souhaite pas s'insérer, et puis nos trajectoires de vie font qu'aujourd'hui, on a choisi un chemin différent. Donc moi, je vais dans les structures pour utiliser les aides, mais il ne faut pas qu'on parle d'insertion, parce que voilà, recourir pour prendre ce dont ils ont besoin sur le moment, ou voilà, mais avec un choix, la dimension du choix, c'est-à-dire de mettre de côté toute la dimension d'insertion. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui disent qu'ils y vont pour les professionnels, mais qui valorisent beaucoup, beaucoup le travail des professionnels, et on sent un lien très, très fort avec les professionnels. C'est pas pour autant qu'ils vont décider de s'engager dans une trajectoire d'insertion. Au contraire, le fait que ces dispositifs soient inconditionnels, en fait, ça les conforte, c'est-à-dire ça leur donne un argument de poids pour dire qu'ils ont le droit à cette vie-là. Il y a des dispositifs qui existent et en fait, ils routinisent leur usage de ces dispositifs-là pour en faire une assistance routinière. Et ils en font un droit, comme le droit commun, quelque part, au titre de leur trajectoire de vie et au titre de leur choix de ne pas s'insérer.
C'est là le cœur de votre thèse, en fait. C'est là que c'est super intéressant, parce que vous montrez avec le concept de carrière aussi qu'ils intègrent à leur trajectoire biographique et à leur construction identitaire l'usage de ces dispositifs-là, finalement, pas comme quelque chose qui pourrait être méprisant, si aux yeux des autres, mais non. Ça fait partie de notre trajectoire de vie et ils l'intègrent à leur schéma finalement de vie.
Oui, tout à fait. Parce que quand ils disent « je me débrouille », il y en a beaucoup et de fait qui se débrouillent. Par exemple, pour laver mon linge, je vais au lavomatique dès que je peux, je vais sécher des potes, je vais dans les structures vraiment quand j'ai plus le choix, etc. Mais de fait, ils y vont quand même régulièrement et de manière routinière. Même si la fréquence n'est pas toujours très serrée, c'est finalement le dernier filet. C'est-à-dire, s'il n'y a plus rien d'autre, il y a toujours ça. Et d'autre part, il y a une possibilité de retourner le stigmate un petit peu, parce qu'ils ont une étiquette quand même très forte. C'est quand même très stigmatisé. On peut dire oui, mais en même temps, ils en jouent, parce qu'ils mettent en scène leur look, etc. C'est une façon de réagir au stigmate. Une autre façon de réagir, c'est de mettre en évidence la spécificité de leur trajectoire par rapport aux autres. Donc, dans la mise en récit, il y a aussi ce que j'ai appelé un recours un peu plus détourné aux structures, c'est-à-dire que quand ils recourent aux structures, ils y recourent aussi pour dire « Oui, mais moi, les gens, ils disent que je ne fais pas d'efforts pour m'insérer, ils disent que je n'essaye pas d'aller travailler, mais ils ne savent pas si j'ai déjà été assez bien dans ma vie pour travailler. » Ou alors d'autres qui disent « Oui, mais moi, j'ai déjà travaillé. » Et de fait, il y a beaucoup de jeunes qui racontent avoir travaillé 4, 5, 6, 7, 8 ans, avoir été en appartement, après avoir connu la rue. Ils disent « Mais moi, au bout d'un moment, j'en pouvais plus et j'ai choisi de retourner à la rue. » Parce que c'est là que je me sens le mieux. C'est facile de croire à ces discours-là, mais derrière, il y a toute la dimension de la sociabilisation. Comment ces jeunes se sont construits. De fait, ces jeunes qui ont connu la rue depuis leurs 12-13 ans, sans forcément y vivre et y dormir, mais qui ont côtoyé ce monde de la marginalité, c'est leur socialisation secondaire à eux, quand leur socialisation primaire a été lourdement grevée parce que les relations familiales étaient très difficiles, parce que l'école, ils étaient en échec scolaire, parce que toutes ces ruptures, etc. Donc, ils ont une socialisation secondaire marginalisée, comme je disais au début. Ces lieux-là font partie des lieux aussi de socialisation marginalisée. C'est leur circuit à eux, c'est aussi leur lieu de socialisation. Quand ils expliquent qu'ils vont dans les lieux d'urgence sociale, qu'ils y vont que quand ils ont besoin, on voit qu'ils y vont régulièrement. Et dans leur discours, il y a aussi en filigrane tout un positionnement à l'égard de l'insertion. Je pense au discours sur la Manche, notamment, qui est très révélateur, parce que, par exemple, ils ne vont pas prendre de rendez-vous avec, une structure pour faire des démarches, quelles qu'elles soient, sur les heures où la Manche est rapporte le plus. Beaucoup de personnes peuvent s'offusquer de cette posture en se disant ils ne font pas d'efforts, etc. Eux, ils disent, mais moi, je fais appel à la solidarité publique quand je fais la Manche. C'est un travail de faire la Manche. Ils ne se rendent pas compte, ils ne sont jamais restés assis toute la journée, quand il fait froid, à se faire insulter par les gens, à regarder. En fait, c'est très révélateur parce qu'il y a ce discours très construit autour de la Manche. Et ils parlent de la Manche comme n'importe qui parlerait de son travail en disant « Mais c'est dur aussi, là, tous les jours, de devoir faire cette tâche-là, etc. » Enfin, il y a vraiment ce discours-là. Il y a des jours où c'est difficile et les gens ne se rendent pas compte, etc. Il y a la Manche, il y a les chiens. Je dis ça parce que c'est toujours en relation avec l'impossibilité finalement de s'insérer. Ils disent qu'ils ne peuvent pas et ils avancent des arguments valables pour dire qu'ils ne peuvent pas. Et il y a des travaux qui ont été menés sur les jeunes errants et leurs chiens. Blanchard qui a travaillé là-dessus,
oui,
voilà, qui est sociologue aussi, qui a fait un travail très intéressant. Donc il y a une dimension affective hein, du chien.
Bien sûr.
Souvent, c'est ma famille, c'est mes enfants. Alors ça peut faire sourire, mais c'est extrêmement important. Et c'est des, voilà, les travaux sur les clochards ont aussi beaucoup montré hein, l'importance de l'animal, etc. Ouais. Avoir des chiens et les considérer de telle façon, là, ma famille, mes enfants, que sais-je, c'est partie de mon identité marginale. C'est une partie de ma construction. Donc si vous me demandez de m'insérer en laissant mes chiens, en gros, vous me demandez d'être ce que je ne suis pas. Et donc, le fait de valoriser ce discours par rapport aux chiens et de dire « moi, j'ai mes chiens, donc je ne peux pas aller dans tel type d'hébergement », c'est aussi une façon de valoriser son identité et d'en faire un élément positif, là où, en fait, il est une entrave à l'insertion, un élément stigmatisant, parce que c'est le stigmate du punk à chien, typiquement, etc. Donc, tout l'usage du basse-œil, d'exigence, de l'urgence sociale, etc., qui permet finalement à ces jeunes d'entrer avec leur identité entière, c'est des lieux de marginalité et de valorisation de l'identité marginale pour eux. Ce qui fait qu'on en revient à l'idée de la carrière, hein, ce qui fait que finalement, ils vont finir par ne fréquenter que ces lieux-là, ne côtoyer que les pères de ces lieux-là, et rentrer dans cette carrière, hein, comme Becker l'a décrit, c'est-à-dire que petit à petit, on ne fréquente plus que les mêmes personnes, les mêmes lieux. On se comporte finalement assez conventionnellement au stigmate qu'on a, mais en le valorisant. Et puis il y a plein d'éléments qui sont assez révélateurs. Ça, c'est plutôt Goffman qui met en évidence voilà, l'opposition aux autres, moi et les autres, voilà, etc.
Le concept de carrière est super intéressant parce que là,
dans le concept de carrière morale,
C'est la carrière morale des assistés aussi qui avait pu être développée en sociologie. Mais peut-être bien repréciser pour les auditeurs qui ne sont pas forcément experts en sociologie. Donc dans la carrière, il y a aussi tout ce que vous venez de citer, c'est finalement des justifications aussi qu'on parvient à trouver pour s'installer dans une carrière. Est-ce qu'il y aurait des justifications vraiment proprement d'ordre politique, des revendications politiques du côté de ces jeunes? Parce que finalement, on a souvent l'impression qu'il y a une tentative de message politique, mais on ne sait pas vraiment s'il est formalisé. Est-ce qu'il y a des justifications de cet ordre-là aussi qui interviennent
Plutôt que de parler de justification, c'est effectivement plus de la mise en récit, parce que quelque part, on est un peu tous effectivement dans le fait de justifier notre posture, pourquoi on est là, à quel moment, pourquoi on se comporte de telle façon. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont tous un discours politique très construit, très élaboré, pour la plupart ils vont tous un peu dans le même sens, hein, mais sans avoir d'action collective très construite. Donc, et c'est un discours politique, bien évidemment, qui emprunte aux tendances anarchistes, punk, au mouvement libertaire. Après, c'est un discours politique, pas de politique partisane, j'aurais tendance à dire, mais plutôt politique au sens où il y a une observation relativement avisée de la société. Alors, parce que derrière ces mots, c'est la société qui peuvent paraître très, très banaux, mais voire très stéréotypés. Ouais, c'est la société.
La société fait ci, fait ça.
Voilà. Il y a une observation très construite, c'est-à-dire qu'ils ont quand même une expérience des parcours sociaux qui leur donne une forme d'expertise de leur situation sociale. Et forcément, ils se positionnent par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et ce qu'ils ont vécu, que ce soit les trajectoires familiales, hein, parce qu'il y a pas mal de reproductions aussi, et puis après leur trajectoire institutionnelle, ce qu'ils voient de l'état du marché du travail, ce qu'ils voient aussi dans les structures de l'hébergement, hein, parce que de fait, ces jeunes-là, ils espèrent même plus être hébergés, ils appellent même plus le 115, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de place. Ils voient tout cet engorgement, ils voient toutes ces difficultés, ils voient tout ce contexte socio-économique et ils en font part. Et ils en font un vrai support pour argumenter le choix de leur marginalité. Face à ces discours-là, moi, comme aussi beaucoup de professionnels qui les côtoient régulièrement, disent « mais parfois, on ne peut rien leur opposer et ce qu'ils nous disent, ils ont raison et parfois on est bien démunis, on ne peut pas leur promettre, même s'ils viennent pour demander un hébergement, un travail, etc. » Il y a une conscience aiguë et je pense qu'ils le ressentent de manière encore plus sensible du fait de leur position. Donc ils justifient aussi leur position de marginalité à l'égard de ça. Alors c'est vrai que moi j'utilise souvent du coup les travaux de Françoise Dubé quand on me questionne sur cette question du discours politique, quand il a écrit La Galère là, sur
les jeunes de banlieue.
Voilà, les jeunes de banlieue. Il explique que la galère c'est la rage, mais c'est aussi le nihilisme.
Oui.
Donc c'est la rage, c'est la colère de ce qui se passe. Le nihilisme c'est l'anéantissement. Et il dit c'est aussi l'incapacité d'accrocher une action marginale à ces propos-là. Donc, c'est-à-dire, les jeunes que j'ai rencontrés, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'ils ont un constat très amer et très politique hein, de ce qu'ils observent, de leur situation, de ce qui va autour d'eux. Mais il n'y a pas d'action derrière. Et là, on est aussi, la recherche, c'est aussi cyclique. Du coup, on revient aussi à la dimension de l'errance. Cette dimension de la vacuité, cette impression de vide, elle vient aussi de ce fait-là. Mais l'errance, on en parle aussi. On en a parlé peut-être moins aujourd'hui, mais pour les jeunes des banlieues. Hein. Il y a cette oisiveté, enfin, que la société a du mal à saisir comme quelque chose de constructif. Et voilà. Et c'est vrai que l'absence de mobilisation collective des jeunes laisse penser que ce serait quelque chose de peu construit, de peu politique, plus un laisser-aller finalement qu'une construction de sens.
Le Labomatique.
L'émission scientifique de Radio Campus Rennes.
C'était Le Labomatique sur Radio Campus Rennes. Retrouvez comme chaque semaine le podcast de l'émission sur www.radiocampusrennes.fr.